Vous écoutez On lit pour vous.
Les gaspillages ordinaires. Un texte de Maxime Bergeron, paru le 22 juin 2026 dans La Presse. Une écœurantite aiguë. Voilà ce que je retiens des nombreux courriels que vous m'avez envoyés depuis ma chronique sur l'explosion du coût des projets d'infrastructure au Québec. Vous craignez qu'on fonce collectivement dans un mur. Vous exigez un coup de barre rapide pour stopper l'inflation galopante. Votre niveau d'espoir est faible, cela dit. Mon texte portait sur l'injection de 1 milliard dans le maintien des infrastructures municipales en eau. La somme sera étalée sur 10 ans. L'équivalent d'une goutte d'eau dans les égouts, alors que les besoins se calculent en dizaines de milliards et que le coût des projets gonfle d'année en année. Benoît Laroche, directeur général de l'entreprise de construction Unique, qui compte 80 employés à Lévis, en avait long à me dire sur le sujet. Les hausses salariales accordées aux travailleurs de la construction, 22 % sur 4 ans, ont pimenté la facture des chantiers québécois. Mais les racines du problème sont bien plus profondes. Je suis extrêmement fâché du gaspillage de fonds publics dans les projets de construction, m'a-t-il écrit. Car, plus que n'importe qui d'autre, je suis aux premières loges, je vois les gaspillages ordinaires. Ceux qui ne font pas la une des journaux. C'est là que se trouve l'argent. Les couches successives de normes en tout genre, j'ai entendu cette semaine les expressions « lasagne » et « spaghetti », alourdissent la facture d'à peu près tous les projets, dénonce-t-il. Le problème est plus complexe. Il est dans le détail du fonctionnement des donneurs d'ordre eux-mêmes. Les municipalités, en premier lieu, sont souvent les pires. En plus du devis de la firme de génie, qui est souvent très volumineux et très mal fait, il y a des documents sur les normes standards de la ville. Un document immense, un fourre-tout qui n'est jamais mis à jour, donc dépassé à plusieurs niveaux. Et en contradiction à plein d'endroits avec le devis. Les travailleurs de la construction gagnent le même salaire qu'ils bossent sur un projet privé ou public. Vous avez été plusieurs à me le signaler. Comment expliquer alors que la facture bondisse à ce point dès que le donneur d'ouvrage est public? Rappelez-vous les maisons des aînés, projet chouchou du gouvernement Legault. Elles ont coûté en moyenne 800 000 $ la porte à construire. Parfois jusqu'à 1,8 million. Or, des résidences privées très similaires ont pu être bâties pour moins de 300 000 $ par chambre. François M., un frigoriste de la Gaspésie, croit qu'un angle mort est éclipsé du débat public. Qu'en est-il des autres secteurs qui font grimper la facture? Cabinets d'ingénierie, d'architectes et autres professionnels. L'homme m'a cité l'exemple de la maison d'enfance de René Lévesque, située à New Carlisle, près de chez lui. Québec l'a rachetée il y a 5 ans. L'État a englouti presque 930 000 $ en analyses de toutes sortes, sans qu'aucun travail de réfection n'ait encore été entamé sur la bicoque blanche. Le professeur de l'École de technologie supérieure, ETS, Yvon Chabot, économiste en construction agréé, m'a souligné un autre facteur qui contribue, selon lui, à l'inflation des projets publics. Les cautionnements. Le Québec investit des milliards pour réparer ses infrastructures, dit-il. Mais combien de millions sont dépensés chaque année pour des cautionnements qui ne construisent ni un mètre d'aqueduc, ni un logement, ni une salle de classe? Ces sommes sont demandées aux entrepreneurs à différentes étapes des chantiers publics. Elles génèrent un tas de paperasse, ce qui décourage bien des entreprises de soumissionner aux appels d'offres publiques, ajoute M. Chabot. Résultat, moins de firmes lèvent la main. La concurrence diminue dans le marché, les prix augmentent. L'expert suggère de moderniser les méthodes de suivi des chantiers plutôt que d'exiger de grosses cautions d'entrée de jeu. Sans surprise, vous êtes nombreux à décrier la toute-puissance des syndicats dans l'industrie de la construction. Si je synthétise, plusieurs aimeraient voir le gouvernement donner un coup de hache dans le système. Peu y croient, par ailleurs. Au moment de lire votre article sur les coûts de construction de mon balcon, je peux voir 15 employés d'une firme de construction en train d'asphalter une piste cyclable pour le compte de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, m'écrit Jean. Bel exemple de contre-productivité. Je laisse le mot de la fin à Robert Knappen de Saint-Bruno-de-Montarville. Ce Belge installé au Québec depuis 40 ans suit tous les jours les infos de son pays d'origine. Il n'en revient toujours pas de l'écart de prix énorme entre les projets d'infrastructure ici et là-bas. Il m'a parlé du nouveau tramway de Liège qui a coûté 1,9 milliard de dollars canadiens, tout compris, pour un tracé de 11,7 km et 23 stations. C'est trois fois plus cher que prévu. Un scandale en Belgique. Mais ça reste une aubaine par rapport au futur tram de Québec, évalué à 7,6 milliards pour 19 kilomètres. Il s'émerveille aussi du prix du nouveau stade de la Louvière, de 8 000 places. Il a été bâti en 14 mois pour 27 millions. Le prix d'une trentaine de poteaux de signalisation au Québec. La question que ce lecteur m'a posée reste brûlante d'actualité. Alors, où va l'argent? C'était Les gaspillages ordinaires, un texte de Maxime Bergeron paru le 22 juin 2026 dans La Presse.
Pourquoi sourit-on sur les photographies? Un texte d'Étienne Gertin-Tardif paru le 24 juin 2026 dans La Presse. Lorsque la chaleur s'installe, les occasions de se faire photographier se font plus nombreuses. Que ce soit au chalet, au parc ou à la plage, le même rituel se répète. Nous étirons les lèvres et affichons un sourire dès que l'objectif d'un appareil se braque sur notre visage. Rien de plus naturel, rien de plus évident, n'est-ce pas? Pourtant, cette curieuse habitude est beaucoup plus récente qu'on pourrait le croire. En 2015, des chercheurs de l'Université de Berkeley ont analysé près de 38 000 portraits d'albums de finissants américains. Ils ont découvert que ce n'est qu'à partir des premières décennies du 20e siècle que nous avons commencé à sourire sur les photographies. Avant cela, nous affichions le regard sérieux et austère que nous rencontrons chaque fois que nous ouvrons un vieil album de famille. Nos ancêtres s'empêchaient-ils de sourire en raison du long temps de pause des anciens appareils? Ou encore de leur dentition en mauvais état? L'absence de sourire comme norme sociale. En feuilletant d'anciens manuels de bienséance qui indiquaient aux jeunes gens comment se comporter en public, on constate qu'une autre piste d'explication est possible. En effet, le sourire n'a pas toujours eu la signification positive qu'on lui accorde aujourd'hui. Il y en a, quelquefois, qui élèvent tellement la lèvre d'en haut et abaissent si fort celle d'en bas que leurs dents paraissent quelquefois même tout entières, écrivait le prêtre Jean-Baptiste de La Salle au XVIIIe siècle, avant de poursuivre. Cela est tout à fait contre la bienséance qui ne veut pas qu'on voie jamais les dents à découvert. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, afficher ses dents dans l'espace public paraissait vulgaire et déplacé. Le sourire était alors associé aux fous, aux indigents. Et comme l'écrivait le romancier Charles Dickens, aux dames et aux messieurs qui ne se soucient guère de paraître intelligents. Les individus, et en particulier les membres de la haute société, devaient maîtriser leur corps et leurs émotions pour paraître respectables aux yeux des autres. Afficher un regard sérieux était une marque de retenue et de dignité, souvent même d'intelligence. L'absence de sourire était alors un marqueur social servant à départager les individus bien élevés des masses moins instruites et cultivées. Un tableau de Gerrit van Honthorst, exposé au Musée des beaux-arts de Montréal, en offre un beau témoignage. Peint en 1624, « Femme accordant un luth » montre une dame qui sourit à pleines dents dans un lieu qui était autrefois associé à la prostitution. La description offerte par le musée est sans équivoque. Le fait de sourire la bouche ouverte était jugé assez vulgaire, un geste de moralité douteuse. Jusqu'à l'aube du XXe siècle, les occasions de se faire peindre ou photographier étaient rares. Le portrait remplissait alors une fonction précise: laisser une image durable de soi à la postérité. Dans un petit guide adressé à ses clients, le célèbre photographe montréalais William Notman notait d'ailleurs en 1870 que rien n'a l'air plus idiot qu'un sourire forcé. Qui aurait osé gâcher son portrait en exhibant un vulgaire sourire? Comment le sourire est devenu photogénique? Dans son ouvrage « La civilisation des mœurs », le sociologue Norbert Elias remarque un certain relâchement des mœurs dans les premières décennies du XXe siècle. Les normes sociales deviennent soudainement plus permissives, ce qui permet aux individus d'afficher plus librement leurs émotions et de se jouer des conventions sociales en présence des autres. Le cinéma muet participe à cet assouplissement des règles de conduite, comme l'a montré l'historien André Guntert. Les acteurs et les actrices affichent en gros plan leurs émotions à l'écran et transforment le sourire en symbole de vérité, de sincérité. Peu à peu, les visages graves de nos ancêtres paraissent figés et artificiels. Une attitude qui ressembla non point à celle d'un être vivant, mais plutôt à celle d'une statue, comme l'écrivait Gilbert de Chambertin dans un ouvrage sur la photographie paru en 1937. À cette même époque, les appareils photographiques deviennent moins lourds et de plus en plus abordables. Autrefois réservés aux classes supérieures, ils s'imposent rapidement comme un moyen d'expression prisé par la classe moyenne à leur naissance. Le changement est majeur. Les photographies ne sont plus seulement capturées entre les murs des studios professionnels, mais s'introduisent dans la sphère privée, capturant l'intimité et la spontanéité de la vie quotidienne. Une entreprise comme Kodak n'attendra pas bien longtemps avant de tirer profit de ce nouveau régime émotionnel, elle qui associe le sourire au plaisir et à la joie des vacances. « Vacation days are Kodak days », lançait-elle comme slogan dans une célèbre publicité de 1904. Contrairement à ce que l'on pense souvent, sourire devant l'objectif n'a donc rien d'un réflexe naturel. Ce qui paraissait autrefois vulgaire ou indigne est devenu le signe même de la spontanéité, du bonheur et de l'authenticité. Progressivement, le sourire s'est imposé comme la posture attendue devant l'objectif, au point où son absence paraît aujourd'hui étrange, produisant à coup sûr une photo ratée. Et si nos ancêtres nous semblent austères sur les photographies, n'oublions pas que nos descendants regarderont peut-être les nôtres avec étonnement, se demandant pourquoi leurs lointains ancêtres étaient contraints d'afficher un large sourire dès qu'ils se trouvaient devant l'objectif d'un appareil photo. C'était « Pourquoi sourit-on sur les photographies ?» Un texte d'Étienne Gertin-Tardif, paru le 24 juin 2026 dans La Presse.
À Montréal, la ville du quart d'heure reste sur sa faim. Un texte de Simon Van Fleet, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Avez-vous une épicerie où vous procurez des fruits et légumes frais à moins de 10 minutes à pied de chez vous? Si oui, vous avez plus de chances que près de 50 % de la population montréalaise. Le modèle de la ville du quart d'heure, où toute personne peut combler ses besoins essentiels à 15 minutes de marche ou de vélo de son lieu de résidence, gagne en popularité auprès des urbanistes depuis une dizaine d'années. Dans les villes nord-américaines comme Montréal, il subsiste toutefois d'importantes inégalités d'accès à certains biens et services, dont des aliments frais, en raison d'un aménagement urbain historiquement centré sur la voiture. Une étude géomatique de la Direction régionale de santé publique de Montréal attestait déjà du problème en 2006. Une analyse publiée en décembre 2025 dans le Journal of Urban Mobility vient jeter un nouvel éclairage sur ce dossier. Avec les progrès des technologies informatiques et des logiciels, l'un de nos objectifs comme urbaniste et expert en sciences des données est d'analyser les problèmes avec un niveau de détail spatial beaucoup plus fin que ce qui était possible il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans, explique Sepide Koramisarvestani, doctorante au département de géographie, urbanisme et environnement de l'Université Concordia. À l'aide d'un moteur de routage, un modèle informatique conçu pour déterminer des itinéraires précis qui tiennent compte des temps de trajet réels, incluant les transferts multimodaux, la chercheuse a analysé les données spatialisées de plus de 13 000 blocs d'édifices afin de cartographier l'accessibilité de plusieurs centaines d'épiceries et de marchés de fruits et légumes répertoriés dans des bases de données ouvertes. Nous avons fait le routage des trajets pour chaque mode de transport, la marche, le vélo et leur complémentarité avec le transport collectif, à partir du centre de chaque bloc vers les épiceries situées à proximité. Cette approche en haute résolution a confirmé que les contraintes de transport et de mobilité nuisent à l'accès à une alimentation saine. À Montréal, cela touche près de la moitié de la population qui n'habite pas à distance de marche d'une épicerie. L'étude constate aussi que l'accès à ce type de commerce s'améliore considérablement quand on peut s'y rendre en utilisant plusieurs modes de transport actifs, particulièrement le vélo et collectif. Ouvrir des épiceries à proximité des stations de transport collectif très fréquentées pourrait aussi être très utile pour que les gens puissent y passer en revenant du travail ou de l'école, conclut la chercheuse. C'était « À Montréal, la ville du quart d'heure reste sur sa faim », un texte de Simon Van Fleet, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Une idée sur laquelle s'interroger, la fusion d'univers, un texte de Steve Gourges, paru le 27 juin 2026 dans Science Presse. Le titre de cet article donne à penser qu'il s'adresse aux personnes amatrices de science-fiction, alors que son but est d'amener la réflexion scientifique sur le terrain de la vulgarisation. La fusion de deux ou plusieurs univers. Au panthéon des idées bizarres, celle-là mériterait peut-être une place. Pourtant, nous allons voir que le chemin qui nous y conduit n'est pas aussi tortueux qu'on pourrait le penser. L'ingrédient de base est, bien sûr, celui qui nous fait aboutir à l'idée qu'il puisse exister plusieurs univers. On résume bien, dans un article de Québec Science, les trois grandes étapes qui nous ont introduits à cette idée d'univers multiple. De la théorie des mondes multiples de Hugh Everett dans les années 1950, en passant par celle de l'inflation chaotique qui a été introduite au début des années 1980, jusqu'à la cosmologie Branner, issue de la théorie des cordes, les chemins nous suggérant que notre univers n'est pas unique n'ont cessé de se diversifier. Aussi diverses que soient les grandes lignes de ces développements théoriques, elles ont un point commun. Il n'est pas question que les univers parallèles ainsi engendrés puissent fusionner entre eux. Le scénario ekpyrotique de la cosmologie Branner propose toutefois que deux univers puissent interagir, non pas pour qu'il en résulte une fusion, mais plutôt pour produire comme effet un Big Bang. Une idée va malgré tout nous amener à considérer cette possibilité de fusion entre deux univers. L'univers trou noir. L'idée que notre univers pourrait être l'intérieur d'un trou noir a été formellement proposée et publiée, apparemment pour la première fois, en 1972. Elle a été introduite par le physicien théoricien Raj Kumar Patria. Comme bien d'autres idées nouvelles, celle-ci a été mise en veilleuse avant de connaître un regain d'intérêt de la part des cosmologistes. Du trou noir solitaire au trou noir multiple, le raisonnement est simple. Advenant le fait que notre univers serait un trou noir, s'il existe une multitude d'univers, dès lors, il doit exister une multitude d'univers trous noirs. Or, nous savons que les trous noirs peuvent fusionner. Pourquoi, dans ce cas, des univers trous noirs ne pourraient-ils pas fusionner entre eux? La question, et ses possibilités qu'elle offre, dans le cas d'une réponse affirmative, ouvriraient une boîte de Pandore cosmologique. Que se passerait-il dans le cas de la fusion de deux univers? Comment décrire ce que deviendraient les lois de chacun des deux univers fusionnés? Ce type d'événement cosmique produirait-il un univers avec des lois totalement nouvelles? En résulterait-il plutôt un chaos indescriptible duquel serait absente toute loi physique? La conception de notre univers comme univers trou noir se base sur l'observation que le rayon de notre univers observable est très proche du rayon de Schwarzschild, la limite théorique, d'un trou noir de notre masse. De plus, l'horizon cosmologique, le bord de notre univers, agit comme l'horizon des événements d'un trou noir. Rien de ce qui le dépasse ne peut nous revenir. Il y a là matière à réflexion. Pour autant, cette idée rencontre un problème. En dressant un premier pont pour unifier la relativité générale et la mécanique quantique en 1974, Stephen Hawking montre que les trous noirs ne sont pas totalement noirs, et qu'ils émettent un rayonnement thermique, révélant ainsi qu'ils ont une température. Elle nous montre que la température d'un trou noir est inversement proportionnelle à sa masse, mais aussi que cette région de l'espace-temps est extrêmement froide. De fait, selon la formule de Hawking, la température d'un trou noir de la masse d'une étoile est plus basse que celle de notre univers, et cette température est encore plus basse pour les trous noirs supermassifs. Selon l'estimation de sa masse, si notre univers était un trou noir, sa température serait d'environ 10 à la puissance moins 30 Kelvin, soit un millième de milliardème de milliardème de milliardème de Kelvin, ce qui est incommensurablement plus froid que la température moyenne actuelle de notre univers, soit 2,73 Kelvin. Comment concevoir dans ce cas que nous puissions nous trouver à l'intérieur d'un trou noir? Il faut toutefois préciser que l'horizon de ces trous noirs n'a que deux dimensions. Certaines théories conçoivent notre univers comme étant inclus dans un espace à quatre dimensions. Ce faisant, l'une de ces théories propose que notre univers trou noir serait issu de l'implosion d'une étoile qui possède quatre dimensions spatiales. En pareil cas, l'horizon de notre univers serait un volume plutôt qu'une surface. Une autre équation pour déterminer la température d'un tel type de trou noir serait sans doute nécessaire. Même avec une telle équation remaniée, il est très loin d'être certain qu'elle nous conduise à la possibilité que notre univers puisse être l'un de ces lieux où l'espace et le temps se retrouvent refermés sur eux-mêmes. D'un autre côté, même si nous devions abandonner cette possibilité pour notre univers, elle n'impliquerait pas forcément que d'autres univers ne puissent exister et présenter cette caractéristique étonnante, et éventuellement pouvoir fusionner entre eux. Toute la difficulté serait alors de concevoir comment mettre leur existence en évidence. C'était une idée sur laquelle s'interroger, la fusion d'univers, un texte de Steve Gourge, paru le 27 juin 2026 dans Science Presse.